Cette année, Videolan alias VLC fête ses 20 ans, présent sur quasi tous les OS, capable de lire pratiquement tous les codecs vidéo, toujours gratuit, sans publicité et en open source. Ce player est connu mondialement, surtout avec son logo qui rappelle qu'il est continuellement en chantier. Afin de parler de ce fabuleux succès logiciel français, nous avons la joie de recevoir par satellite Jean-Baptiste Kampf, lead développeur de VLC, président de l'association Videolan, CTO chez Shadow Blade, prestataire de cloud computing grand public, et, s'il vous plaît, chevalier de l'Ordre National du Mérite.
CPU, carré et petit utile.
Comment es-tu venu au code ?
J'ai commencé à coder très très jeune. Je crois que j'étais en sixième parce que j'avais un prof de maths absolument génial qui nous avait fait programmer en logo à l'époque.
Sur des Thomson ?
Sur probablement des Thomson, je crois que je me souviens pas. Et ça, c'était la première fois que j'ai fait vraiment de la programmation. Et puis à partir du moment-là, d'informatique au collège finalement. Du Pascal et des trucs comme ça à l'époque. Et puis après, j'ai arrêté et je m'y suis remis en fait à la fin de mon école d'ingé.
On replante le décor, on est en 2002, on a un nombre hallucinant de players vidéo différents qui sont tous plus ou moins compatibles, on a QuickTime sur Mac, qui existe aussi sous Windows mais qui n'a pas toutes les fonctions, Windows Media sur Windows mais qui n'existe pas sur Mac et encore moins sous Linux, mais aussi Real Player qui lui existe sous Linux mais qui est bourré de publicité et j'en passe, et des fois on a quasi rien sous Linux, ces trucs ne passent pas, bref, on perd un temps monstre à essayer de lire une vidéo qu'on a récupérée sur Internet. Qui s'est lancé dans l'aventure VLC ? De jeunes padawans en goguette sans la supervision de Jedi adultes ? Et pourquoi à l'école centrale de Paris ? J'ai entendu honnêtement beaucoup de légendes sur la création de VLC, mais alors beaucoup, est-ce que tu peux enfin nous révéler la vérité ?
Les gens, ils aiment pas trop ça, mais ils aiment bien dire que je suis créateur de VLC. En fait, je suis pas créateur de VLC. Et la réponse et la raison, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de créateur à VLC. C'est un projet qui est une continuité d'un projet qui est une continuité d'un projet étudiant. Donc, je vais vous raconter un peu cette histoire-là. À l'école centrale Paris, qui était à Châtenay-Malabry à l'époque, c'était un cas un peu bizarre français, où on avait une école d'ingénieurs publics sur un terrain qui était géré par une association privée, qui était une association d'anciens élèves. Alors, c'est assez classique outre-Atlantique, c'est très très rare en France, soit t'es une école privée, soit t'es une école publique. Une conséquence de ça, c'est que tout ce qui était géré sur le campus n'était pas géré par l'école et était géré par des étudiants. Donc, il y avait plein d'assos sur ce campus qui géraient la cafette, le supermarché, la radio, la télé, une petite télé interne, les soirées, les imprimantes, une BD tech et une bibliothèque, etc. Donc tout était géré en fait par des associations en fait d'anciens élèves ou d'élèves actuels, et ça se passait plutôt bien. Mais fin des années 80, milieu des années 80, il y a une association qui se crée qui s'appelle VIA, je veux dire Vive l'informatique autrement, je crois à l'époque. Et VIA gère un réseau parce qu'il y a un mec de chez IBM qui était évidemment un ancien centralien qui a envie de déployer en fait un réseau assez large et donc il déploie un réseau Token Ring sur l'ensemble de la résidence. Alors le réseau Token Ring, dans les années 80, ça va. Dans le début des années 90, ça va encore.
Moyen. Fallait déjà trouver les raccords en T, puisque le principe du Token Ring, en plus, c'est que si jamais un ordinateur est éteint, c'est lourd.
Exactement. Donc c'était avec des prises hermaphrodites qui permettaient en fait justement d'avoir de ce réseau. Et donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un réseau Token Ring. En fait, tous les ordinateurs sont sur un même câble. Quand tu veux parler, en fait, tu prends le jeton qui tourne, tu mets les données de ton jeton, et puis elles partent sur le réseau. Et chacun regarde, ouvre le message et le jeton, et dit « Ah, c'est pour moi, c'est pas pour moi ». Donc déjà, vis-à-vis de confidentialité des données, il y a un petit peu un problème, mais ça veut dire que plus tu es d'ordinateurs, et surtout plus il y a d'ordinateurs qui sont un peu plus lents, plus la latence est grande. Donc quand il y a 50, 100, et puis quand c'est juste pour envoyer des mails, ça va. Et quand on commence à être un peu plus début du web dans les années 90 et début des jeux vidéo en ligne, là ça va plus. Et donc les étudiants de VIA veulent un nouveau réseau. Ils vont voir l'école et l'école leur dit « Écoutez, vous êtes mignons les enfants, comme c'est pas nous qui gérons votre réseau, puisque votre réseau il est sur votre campus qu'on ne gère pas, allez voir ailleurs. » Et notamment, aller voir des partenaires de l'école. Donc, faut savoir que les écoles d'ingé, elles ont beaucoup de partenariats avec des grandes entreprises. Et elles vont voir, les étudiants vont voir plusieurs entreprises. Et notamment, ils vont voir Bouygues, puisqu'évidemment, Bouygues avait construit la résidence de l'école. Mmh. Ils se font rediriger vers TF1. Alors, est-ce que c'était TF1 ou TPS? Je sais pas exactement. Mais en tout cas, c'était ça. Il y a quelqu'un qui leur dit, écoutez, le futur de la vidéo, c'est le satellite. la vidéo satellitaire. Nous, on trouve que ce serait une bonne idée d'expérimenter, puisque votre flux satellite, c'est du numérique, de prendre ça et de l'envoyer par un réseau numérique, histoire de ne pas installer une antenne par étudiant. Parce qu'il y a quand même 2500 étudiants, donc s'il faut acheter 1500 antennes et 1500 décodeurs, et puis tu vois, c'est des décodeurs à l'époque.
C'est du magnétoscope VHS en taille.
Ouais, ou plus gros même. Hein. Mmh. Les premiers en 94-95, c'est quand même plus gros. Ça coûte 1000 francs, 1500 francs. Il y a 1000 francs d'antenne. Puis les étudiants, ils sont quand même pas hyper soigneux pour ce genre de matos. Bref, on parle d'un coût d'équipement à 2000 francs par étudiant fois 1500 étudiants. Ça arrive vite à 3 millions de francs. Et donc, on se dit, bah finalement, c'est peut-être pas le truc le plus malin. Si jamais on pouvait mettre juste une grande antenne et puis envoyer ça sur le réseau et que les gens décodent ça sur des PC en local, ça serait génial. Aujourd'hui, évidemment, c'est évident, mais là, on est 10 ans avant YouTube, un peu plus que 10 ans avant YouTube. Les gens, ils ont des 486 DX à 66 MHz. Il y a les premiers Pentium 60 et 90 qui arrivent, et en 95, Pentium 75 et Pentium 100. Faire du décodage vidéo, alors certes, niveau SD, mais sans carte d'accélération de décodage. À l'époque, on avait des cartes d'accélération de décodage matérielles. Ça semblait un peu utopique. Mais bon, les étudiants disent « Ok, on trouvera une solution ». Bon, et donc, ils montent le projet qui s'appelle à l'époque Projet Network 2000 et qui, en 96-97, donne des premiers résultats où ils sont capables de faire ça et le projet aurait pu s'arrêter là. Pourquoi pas ? Il n'y avait pas de raison de continuer. La démo tient 40 secondes. Évidemment, après, tout crash, mais c'est pas grave. Tu montres que c'est faisable. C'est sous Linux avec une interface graphique. Ça doit être du frame buffer, d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, voilà, le projet... il est né, et à cette époque-là, on parle pas de VLC du tout, il y avait un player, hein. Fin 97, ça fonctionne, tout le monde est content, et puis, bah, le projet s'arrête, le nouveau réseau ATM, à 100 mégabits, est sur l'ensemble de la résidence, et tout le monde est content. Mais, il y a quand même quelques mecs de VIA qui trouvent que c'est une bonne idée, et que peut-être ça pourrait intéresser d'autres personnes, et d'autres réseaux locaux. Et donc, en septembre 98, ils recommencent le projet, et là, le projet s'appelle Vidéo LAN, puisque c'est un vidéo sur un réseau local, dans le but de le rendre open source. Donc, 98, le temps de monter le projet, de démarrer, ça commence véritablement en début 99, et ils vont mettre 2 ans à peu près à monter le projet de Vidéo LAN, dans lequel il y a plein de composants, des parties réseau, des parties serveur, qui s'appelait Vidéo LAN serveur, des parties clientes, qui s'appelait donc Vidéo LAN client. En février 2001, ça devient open source, parce que l'école accepte de rendre l'ensemble du code en open source. VideoLAN Client, au bout de 2-3 ans, qui va commencer à vraiment être aussi bien client que serveur, va s'appeler juste VLC, VLC Media Player. Et ça, c'est quelque chose qui arrive plus tard. Donc, il n'y a pas un quelqu'un qui s'est dit « Oh là là, je vais révolutionner le monde du marché des lecteurs vidéo ». C'est VLC qui est un des projets de VideoLAN, qui est la partie cliente qui à l'origine n'était pas forcément la partie qui semblait être la plus compliquée parce que la partie serveur semblait difficile, qui était à l'origine juste fait pour lire des flux satellitaires et qui finalement ensuite, bah, comme il lisait le satellite, il lisait presque les DVD et puis finalement comme il lisait les DVD, il lisait les DivX, etc., etc. Mais ça a décollé parce que c'était open source. C'est open source sur le projet VideoLAN qui était basé sur le projet Network 2000 de VIA Central Réseau qui était dans les années 80. Mm. C'est sûr que ça a été un énorme succès. Et que c'est toujours un succès, mais il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit « je vais inventer VLC ». Je casse un peu le mythe, mais malheureusement, c'est la vérité.
C'est pas malheureusement, c'est une belle aventure collective. Donc VLC, depuis, a littéralement explosé. Et, comme tu l'as très bien rappelé, on venait quand même d'hyper loin. Actuellement, aujourd'hui, et je sais quand même que tu es assez débordé, puisque donc tu es devenu CTO chez Shadow, qui a aussi beaucoup de choses à faire, mais quand tu as le temps d'utiliser VLC pour ton plaisir, tu l'utilises comment et pour regarder quoi ?
J'ai beaucoup de films. Je regarde beaucoup de films et beaucoup de séries. J'ai beaucoup de DVD, beaucoup de Blu-ray, souvent déjà sous forme d'ISO. Et donc, je pense que c'est mon utilisation principale de VLC, c'est pour regarder des films. En ce moment, mes soirées, je regarde Star Trek, la première série en Blu-ray.
Celle des années 60.
Celle des années 60.
Avec les effets spéciaux à base de coups de pied dans le pied de caméra.
Avec exactement ce genre d'effets spéciaux dans très très joli, mais ouais, ça a très vieilli.
Point de vue marketing, pourquoi le logo est un cône Et pas une mascotte animale en peluche qu'on pourrait offrir à ses petits neveux, comme pas mal de projets dans l'open source.
Parce qu'en fait, c'est évidemment donc un projet qui était un projet d'étudiants. Mmh. Les étudiants, ils n'avaient pas comme objectif de faire du marketing. Il y a eu un peu quelques blagues autour de quelques cônes, qui sont des blagues qui, ouais, des blagues d'étudiants, quoi.
Oui, enfin, surtout que la loi de 70 nous interdit de révéler à l'antenne.
Voilà, et donc, et finalement, bah, c'est resté. Quand moi, je suis arrivé à Centrale en 2003, l'étage des geeks, hein, à l'époque, parce que ça marchait par, tout ce campus marchait par étage de 24 personnes. Il y avait, ouais, je sais pas, pour 24 personnes, il y avait à peu près une collection de 200 cônes. Et à partir du moment où c'est passé dans l'open source et que c'est devenu en sur VLC, c'était impossible d'en changer parce qu'en fait, c'est tellement débile et, mais donc tellement reconnaissable que,
iconique, on
que
peut
c'est
le dire.
Génial. Ouais, ouais, bah ouais, c'est. Et bah, tu vois, quand tu regardes les trucs open source, c'est toujours des petits animaux plus ou moins mignons. Et les lecteurs vidéo ou les tout dans le vidéo, c'est les boutons play, quoi. Logo YouTube, c'est un bouton play. Il y a que Netflix, je crois, qui a un peu changé, mais tout le reste, c'est vrai que c'est quand même toujours un peu pareil. Il y a Real Player, tout ça, BS Player. Tu fais un lecteur vidéo, bah, tu gardes ça, quoi.
Tu as eu des plaintes de la DDE à cause de vols de cônes de signalisation par des fans?
Alors ouais, je pense qu'il y a eu des petits problèmes avec les DDE autour de Centrale. Je précise quand même que tous les plots ont été rendus à la DDE à un moment. Mais c'est vrai que les gens de la DDE faisaient un peu attention à leur cône quand ils étaient autour de Centrale Paris, parce que ils avaient tendance à partir.
C'est pas bien, c'est un équipement de sécurité, on vous le rappelle. Hein. Si vous voyez un cône sur la route, c'est un équipement de sécurité, ne le volez pas. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Jean-Baptiste Kempf, lead développeur de VLC. Qu'est-ce que l'équipe de VLC a appris un peu sur le tard ? La dette technique, la cohésion d'équipe ou les tests ?
Les trois. En fait, entre 2001 et 2004, c'était vraiment... le démarrage, enfin, de fait, ça a un peu commencé en 99-2000, mais ouais, c'était cool de bosser sur VLC. Donc, tout le monde rajoutait des fonctionnalités. Enfin, par exemple, quelqu'un partait dans sa chambre un week-end et rajoutait le support FTP à VLC, et toi, c'était génial. Et donc, c'était facile de rajouter des features. Il y a un peu l'intégration de plein de codecs qui sont arrivés un par un. Et quand tu as fait, en fait, les 90% du gros du boulot, bah le reste c'est quand même moins marrant, quoi. Et en particulier commence à arriver en 2005-2006 des corps 2 duo, en fait, où on commence à avoir en fait deux corps de CPU en même temps sur un ordinateur, et que ça commence à être courant. Et là bah VLC avait plein de problèmes de thread safety à l'époque, et donc ben doit commencer un travail de threading qui est quand même pas très marrant et qui va prendre du temps. Il y a eu évidemment un port sous Windows qui a été assez populaire. Quand la personne qui s'en est chargée on s'intéressait plus trop à ça, ben ça avançait plus. Donc il y a eu beaucoup de travail de nettoyage de dettes techniques entre 2006 et 2010. Donc ça, c'était pas forcément la partie la plus marrante. Et c'est le moment où en 2007, on s'est retrouvé, il y avait deux personnes et demie sur le projet. Donc ça, c'était plus très très marrant. Et en particulier parce que les étudiants, il y avait plus les étudiants. Puisque les étudiants n'avaient plus le temps, il y avait l'école, la scolarité de Centrale avait pas mal changé, donc ils avaient moins de temps. Donc, il y a un vrai sujet de dette technique. Aujourd'hui, on a un autre gros travail là sur la prochaine version de VLC de nettoyage de dette technique, qui est aussi pas très marrant, pour pouvoir avoir une architecture qui permet d'aller un peu plus loin pour le futur. Donc dette technique, les tests. Ouais, bah un peu comme tout le monde, personne n'a envie d'écrire des tests, c'est assez chiant. Mais surtout, en fait, tester de la vidéo, c'est très très difficile, parce que tu testes pas si un bouton et c'est affiché ou si ça fait bien une action. C'est difficile sans œil humain de voir les problèmes, quoi. Pendant très longtemps, il y a eu des tests qui étaient pas du tout automatisés. Moi, à chaque release de VLC, en fait, je passais une playlist de tests sur lequel je connaissais un peu tous les samples, qui me duraient 4-5 heures, que je passe toujours, hein, d'ailleurs. Mais en fait, t'as tellement de combinaisons que c'est difficile. Et puis il y a pas mal de projets, notamment sur FFmpeg, qui eux ont maintenant du test vraiment binaire, quoi, sur les codecs. Aujourd'hui c'est un peu mieux, nos tests sont un peu mieux, mais c'est vrai qu'on est encore loin de ce qu'on pourrait faire. Par contre, c'est énormément de temps, et donc on n'a pas forcément l'argent et les ressources pour faire ça. Et puis la dernière chose, c'est que tu parlais de cohésion d'équipe. Ouais, les communautés open source, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui essayent et qui se fight beaucoup. On a eu surtout un problème en fait sur VLC, c'est que c'est du travail qui est assez difficile et quand même souvent assez ingrat, et donc beaucoup de gens qui viennent et puis qui repartent. La structure de VLC par tout petit module fait que en fait tu peux bosser sur une petite partie sans avoir à dépendre trop du reste. Donc ça, c'était quand même beaucoup plus simple à faire.
Quelle est la taille actuelle de l'équipe de VLC?
C'est difficile à dire. Hein. Mmh. Ton corps de VLC, c'est toujours 5-6 personnes. Mmh. Ça a toujours été ça. C'est pas énorme. Il y a beaucoup de contributions extérieures. Et donc, ces propositions extérieures sont plutôt cool et te permettent de rajouter. Mais le corps avec les vrais développeurs, ouais, c'est 5-6 personnes. Mmh. Et c'est eux qui décident si le code rentre ou pas.
Et comme tout logiciel libre, VLC fait intervenir des devs, mais aussi, je suppose, des traducteurs, des rédacteurs. Quelles compétences manquent actuellement à l'équipe de VLC et comment participer à son développement?
Alors, c'est vrai que les traductions, je suis très, très impressionné par la gestion des traductions dans l'open source. On interagit très peu au quotidien, en fait, avec nos équipes qui traduisent parce qu'en fait, elles s'auto-organisent. Donc, ils sont plus organisés autour de langage. Mmh. Ils ont des teams de langage et puis ils se mettent et ils décident d'aller aider à traduire ce logiciel et ils y vont tous. Et toi, tu reçois des traductions. Donc ça, c'est vrai que je suis très très impressionné. On a quand même beaucoup besoin aujourd'hui de gens pour faire du support, modérer le forum. C'est très difficile. Et c'est un travail où tu passes ton temps à te faire t'engueuler, quoi. Et parce que évidemment, ceux que t'entends, c'est ceux qui se plaignent, c'est pas ceux qui disent que tout va bien.
Ouais, ça, oui. Alors,
et évidemment, un travail sur le design et sur la vie de l'asso. En plus, cette année, on n'a pas fait beaucoup d'événements, voire pas du tout. Donc c'est un peu compliqué.
Qu'est-ce qui fait que vous décidez d'implémenter dans VLC un codec plutôt qu'un autre? Genre, I2BP, là, semble être un codec qui est super intéressant, qui permet de passer de la qualité VHS sur le trafic d'un Minitel.
En fait,
c'est une private joke. Hein. C'est pour les auditeurs, là, on parle d'un vaporware d'il y a 20 ans.
Ah, j'avais pas l'impression que c'était aussi longtemps.
Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, allez voir sur la page web de l'émission et on met les liens, notamment vers Feu la revue transfert avec toute l'histoire qu'il y a derrière et qui montre bien combien la jeunesse de VLC à l'époque était dans des milieux qui tenaient du Far West.
C'est vraiment n'importe quoi, mais on continue à en voir hein, du vaporware un petit peu dans la tech tous les jours. Avant, ça m'énervait beaucoup, mais moi maintenant beaucoup moins. En fait, les fonctionnalités de VLC sont rajoutées pas en fonction de si elles sont utiles, mais si elles sont bien implémentées. Statistiquement, quelqu'un qui vient ne restera pas parce que il va proposer des fonctionnalités. Puis au bout de 6 mois, en fait, les gens ils changent, ils ont un nouveau boulot, surtout quand ils sont jeunes, changement de carrière, changement personnel. Ce qui est important, c'est que le code soit maintenable, parce que finalement dans 2 ans, c'est moi qui vais maintenir ton code. Donc voilà. Donc pour nous, la façon de choisir le code, c'est en fonction de la qualité du code et surtout voir si nous on va pouvoir les maintenir. Et donc si jamais il y a des features qui sont hyper importantes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment très très motivé pour nettoyer le code. Pour l'équipe, la continuité, en fait, est ce qui est le plus important. Et donc, c'est pour ça que dans VLC, t'as des fonctionnalités complètement débiles. T'as un nombre de filtres vidéo qui servent à rien, mais t'as des filtres qui peuvent sembler à pas servir à grand monde, et pourtant, ils servent. Notamment, il y a un filtre de puzzle qui permet, en fait, de faire un puzzle pendant que tu regardes une vidéo, qui avait été codé par un prof de maths il y a un bout de temps. T'étais en train de dire, waouh, pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, je crois que c'était il y a 2 ans ou 3 ans, il y a un mec qui m'a dit, écoute, je suis un peu embêté, mais les puzzles, ils sont trop faciles. Et donc, je crois qu'à la limite, c'était 16 x 16, donc 256 tiles. Et je crois que j'ai augmenté la taille à 256 x 256. Mmh.
Donc ça va si c'est pas une valeur magique en plein milieu du code et qui est une constante facilement lisible.
Et donc, un des points vraiment bien dans VLC, c'est cette partie de modularisation de code par petits modules. Ça n'a pas été fait parce qu'on s'est dit que ça serait plus simple dans le futur. On l'a fait parce que ça permettait de compiler plus vite. Parce que un des devs avait une machine un peu trop lente quand il codait sur VLC. Et donc, c'est comme ça. Mais c'est vrai. À l'époque, c'était important, les temps de compilation. Et c'est d'ailleurs une des raisons principales aussi pour laquelle VLC est en C et pas en C++. Et cette partie modulaire, en fait, permet de rajouter des features et d'être un peu future-proof.
Comment fait-on pour implémenter un codec audio ou vidéo ou un container, on achète les dots techniques ou on le reverse engineer parce qu'on n'a pas les moyens.
Ouais, nous, ça a toujours été du reverse. Hein. Mm. Il y a de la doc, parfois sur des codecs, mais surtout dans le VLC, mais là, c'est aussi beaucoup de travail du côté de FMPEG. Il y a souvent des drafts pour les gros codecs qui sont publics. Pour les autres codecs, c'est du reverse engineering.
Et jusqu'où on peut aller ? Par exemple, dans le MPEG 4, je crois qu'il y a un volet pour insérer des objets en 3D, en overlay, ce genre de truc.
Ouais, alors dans le multimédia, il y a un peu de tout et n'importe quoi. En fait, nous, on le fait en fonction de la demande. Il y a un nombre de trucs, notamment dans le MP4. Hein. En fait, c'est pas une spec, c'est une méta-spec. Donc, il y a à peu près une quarantaine de specs. Et même dans certaines specs, notamment la spec audio qui s'appelle AAC, il y a en fait 40 codecs audio dedans. En fait, on a toujours implémenté à partir des samples. Donc ça énerve beaucoup les gens qui écrivent les specs, qui disent « Ouais, regarde, faut implémenter tout ça dans ma spec. » Moi, je dis « Ok, mais ils sont où tes samples ?» Ils font « Mais non, mais implémente-le, les samples arriveront après. » Non, en fait, parce qu'en fait, dans toutes ces specs, t'as énormément de choses qui servent à rien et qui vont jamais servir à rien.
Et s'il n'y a pas de logiciel d'encodage,
exactement,
ça sera jamais utilisé. Quoi.
Ouais, là, par exemple, le dernier truc, c'était sur les sous-titres, notamment un format de sous-titres qui s'appelle le TTML.
Oui, et qui existe aussi sur le web, pour soi-disant pour faire du chapitrage, à côté du web VTT qu'on utilise dans notre player audio. Et en fait, j'ai jamais trouvé un seul endroit où il est utilisé.
C'est une spec gigantesque, il y a plusieurs sous-specs, il y a beaucoup de choses. Il y a Microsoft qui a sa version, il y a le BU qui est donc les broadcasters européens qui ont une autre version, il y a l'Allemagne qui a une autre version. En fait, la spec, elle est gigantesque, mais en fait, tu te dis, bah ouais, mais donne-moi des samples qui existent dans la vraie vie. Et quand tu regardes les samples dans la vraie vie, t'en as beaucoup, beaucoup, beaucoup moins.
Et pour ce qui est des DRM, comment les implémente-t-on ?
Bah en fait, t'as pas le droit. T'as pas le droit d'implémenter les DRM parce que aux États-Unis, bah c'est le DMCA, la partie 1201, et puis en Europe, c'était tout ce qu'on appelait EUCD. Mmh. Un peu compliqué. La plupart de ces DRM se font casser. Hein. Par exemple, le DRM du DVD, on peut pas vraiment considérer ça comme un DRM puisque c'est vraiment tout pété. Il y a eu la même chose sur les mini disques où toutes les DRM ont été pétées. Blu-ray, tu vois, c'est plus compliqué. Donc, nous, on a toute une stack de déchiffrement des Blu-ray, mais on n'a pas les clés.
On voit depuis une dizaine d'années des grands groupes comme Cisco, Google s'unir pour créer des codecs open source pour échapper aux brevets logiciels. Est-ce que toi et l'équipe de VLC, vous participez à la conception de codecs ?
Ouais, on est actifs dans l'Alliance for Open Media, hein, qui a fait AV1 et qui bosse sur AV2. Et on a notamment écrit le décodeur qui s'appelle David, qui est le décodeur AV1 de référence, qui est le plus rapide de tous les codecs, quoi. AV1, et c'est ce qui est maintenant utilisé dans Firefox, dans Chrome, probablement dans les applications de Netflix ou de Facebook, puis évidemment dans VLC. Ça, c'est un codec qui est donc très très rapide pour AV1. Et donc, on travaille aussi pour la suite, qui sera AV2, qui sortira, je sais pas quand ça sera prêt, quoi.
Malheureusement, des fois, on peut se retrouver à marcher le pied sur un brevet technique américain qui n'est pas applicable en Europe. Comment on fait, du coup, pour arriver à gérer le problème des brevets logiciels qui sont applicables aux États-Unis et pas en Europe ?
C'était un peu un des problèmes, si je me souviens, à l'époque de Centrale, quand VLC était Centrale. Justement, tous ces problèmes légaux, en fait, allaient à l'école et ça commençait vraiment à saouler l'école. Et donc, quand j'avais créé l'association en 2008 pour récupérer, moi, j'ai une approche beaucoup plus agressive vis-à-vis de ces gens-là. C'est-à-dire que pour la partie américaine, donc déjà, je refuse les communications légales qui sont pas en français. Je vois pas pourquoi les GAFAM, t'es obligé de, quand tu signes le contrat avec la juridiction américaine, et quand tu téléchargerais VLC, je devrais aussi suivre la juridiction américaine. Je suis pas d'accord. Donc moi, mon site principal, il est en France, les IP, elles sont en France, les serveurs, ils sont physiquement en France, et c'est pas une erreur. C'est que justement, quand tu télécharges VLC, tu te soumets à la loi française. Donc déjà, ça va être pas mal. Donc il faut qu'ils aient des brevets américains qui aient été validés en Europe pour pouvoir attaquer. Sachant que énormément de ces brevets ne sont pas très sérieux, quoi. Pour le moment, ça se passait bien, mais c'est vrai que les Allemands sont en train de pousser le...
Oui, puisque l'Office des brevets européens est en Allemagne, et c'est vrai qu'ils acceptent un petit peu facilement des brevets qui théoriquement ne sont pas légaux en Europe.
En même temps, c'est logique. Eux, ils sont payés au nombre de dépôts de brevets. Ils vont donc avoir intérêt à que tu déposes plus de brevets. Ça me semble logique, non ? Enfin, tu vois, t'as envie de... T'as envie de faire ça?
Oui, moi aussi, j'aime beaucoup les pépettes.
Tu peux pas demander à quelqu'un de travailler sur un truc qui va faire que bah il gagne moins. Alors, t'as des idéalistes, il y en a pas mal dans le monde open source, mais on est quand même une micro-minorité. Les gens, tu leur dis, bah écoute, ouais, travaille un peu moins bien, tu vas voir, ça te fait gagner beaucoup plus, bah ils travaillent un peu moins bien. Et l'Office européen des brevets accepte beaucoup trop de choses, les cours allemandes commencent à accepter beaucoup trop de choses, et une fois qu'on va passer au brevet unitaire européen, ça va être vraiment une cata là-dessus. Et pour le moment, ça se passe bien, résultat, bah plus ça va, les vieux brevets sont tombés, quoi. Par exemple, Dolby, qui était une machine à brevets et surtout une machine mafieuse d'enforcement des brevets, bah il n'y a plus de brevets sur le Dolby, quoi. Le décodeur qu'on appelait le Dolby Digital, bah ils sont tombés tous dans le domaine public. Donc aujourd'hui, on peut être implémenté Dolby sans... Alors, c'était du travail que j'ai fait en 2014 et en 2016. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, l'AC3, le fameux AC3, bah, il y a plus de brevets, en fait, qui sont valides.
Et puisque tu parlais tout à l'heure que tu lisais des Blu-ray de temps à autre avec VLC, est-ce que lire un Blu-ray sous Windows avec VLC est toujours un concours classé hardcore lors du CCC?
Ouais, c'est hyper difficile. C'est clair. C'est vraiment très, très difficile à faire. Mais... si tu vas sur le bon forum, c'est assez simple. Et résultat, les mecs, ils comprennent pas pourquoi les Blu-ray fonctionnent pas. Tu sais, qui disent, oh là là, finalement, les films, ils sortent que sur Netflix et sur Disney. On est très triste. Tu vois pas mal de, tu vois, la Paramount ou Fox qui se plaignent de ça. Mais ouais, mais les gars, vous avez rendu ça tellement compliqué pour les gens qui voulaient payer. Que les gens, ils en veulent plus, quoi.
Et on renverra l'auditeur vers la chronique qu'on a faite sur les DRM, sur les CD et comment Sony s'est tiré une balle dans le pied. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Jean-Baptiste Kempf, lead développeur de VLC pour les 20 ans du petit cône d'autoroute qui vous permet de lire des audios et des vidéos. J'adore ta manière de présenter VLC à des personnalités politiques françaises. Je te cite, « Je suis le patron de l'entreprise qui édite le logiciel français le plus utilisé au monde et le moins rentable. » Ça t'est venu comme ça, ou c'est parce que t'en avais marre de certains qui se la jouaient?
En fait, c'est très 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 compliqué en France. T'as beaucoup de choses en fait où t'es bloqué par le politique et tu peux pas te faire entendre. Alors il y a eu un moment où il y a eu Fleur Pellerin où c'était un peu plus facile. Mais c'est quand même très très difficile. Donc il faut leur rappeler quand même que le nom d'utilisateur de VLC et que c'est français, que donc il y a d'autres façons de faire que juste financer des startups qui vont ne rien faire et qui à la fin vont être rachetées par des grosses entreprises ou qui vont juste mourir.
Tu l'as dit à Cédric O, et est-ce qu'il t'a répondu O?
Non, Cédric O, je crois qu'il est vraiment très très loin des problématiques d'open source, il comprend pas très bien ça. Non, mais surtout, c'était avant. Niveau politique, c'est quand même compliqué. En France, t'as besoin de faire beaucoup de choses avec du politique pour que les choses un peu avancent. Et surtout quand t'es une petite association, et franchement, t'as besoin de la fresh shock, quoi. Et ça m'est arrivé d'avoir des cabinets en face de moi de l'économie numérique. Alors, je pense que c'était le cabinet de Éric Besson, notamment, puis ceux d'Axel Lemaire. Sous Pellerin, c'était beaucoup plus facile. Après, ça a été quand même vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Il faut un peu une phrase choc et leur rappeler le nom du utilisateur de VLC. Ça, c'est important. C'est des noms qu'ils peuvent comprendre. Et en particulier parce qu'en France, finalement, l'industrie logicielle française est quand même assez petite. T'as quelques grosses boîtes. Je pense à Dassault Systèmes. Des gens qui font vraiment du pur logiciel, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est des trucs très professionnels. VLC est vraiment bizarre, et donc faut des phrases choc. Et donc comme je présentais ça au nom de l'association, je disais pas patron, mais j'ai dit VLC. VLC, c'est le logiciel français le plus utilisé au monde et aussi le moins rentable. Alors le moins rentable, c'est là en fait où ça les fait accrocher, c'est que si c'est pas rentable, ça les intéresse moins parce que leur problématique numéro un, c'est économie et emploi.
Comment marche le business plan de VLC, de l'association Vidéolan? Quelle est la partie logiciel libre et ce qui paie le salaire?
En fait, bah c'est simple, il n'y a pas de business model, et il n'y a pas d'argent, et il n'y a pas de salaire. Là, c'est quand même très facile. L'association, c'est l'association loi 1901. Les membres, c'est une partie des développeurs VLC et une partie des développeurs d'autres projets open source autour de VLC. L'association, elle ne vit que des dons, et ça lui permet de... on a quelques serveurs à gérer, de s'occuper notamment de petits problèmes légaux, de droits des marques, d'acheter du matériel, parce qu'on a besoin souvent de matériel, t'as souvent besoin d'une carte graphique différente pour tester des bugs, et puis dernièrement, bah, y a pas mal de téléphones portables, hein, pour tester VLC sur Android et sur iOS. Et personne n'est payé, donc en fait, t'as pas à te prendre la tête sur le business model.
Est-ce que il y a des prestations qui vous sont demandées et qui seront facturées par des entreprises quelconques?
Non, absolument pas. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai créé une boîte à côté qui s'appelle Video Labs et qui embauche une bonne partie des core développeurs de VLC. C'est intégralement indépendant, quoi. Et c'est moi, justement, je me suis rendu compte qu'en 2011, qu'on allait avoir un problème avec VLC, même si j'avais redonné une bonne impulsion avec l'association, je voyais bien que on allait vite arriver à un plateau et que c'était beaucoup plus difficile de recruter des jeunes, puisque bah les jeunes ils voulaient faire des startups, ils voulaient pas bosser dans l'open source, parce que l'open source bah c'était normal puisque tout le monde en faisait, même Google en faisait, et puis maintenant aujourd'hui même Facebook en fait.
Oui.
C'était difficile, donc on sentait que c'était plus dur de récupérer des nouveaux étudiants, et donc bah je me suis dit bah en fait je bah si on veut si tu veux être une startup bah soit une startup autour de VLC. Donc c'est une boîte à côté qui est indépendante et qui si jamais elle meurt elle se fait racheter, je sais pas quoi, justement on sait jamais ce qui se passe, n'aura aucun impact sur le projet, mais par contre ça permet d'être un accélérateur. Donc pour moi c'est le bon modèle.
Si ce n'est indiscret, est-ce que tu peux peut-être dire quels sont les exemples de prestations que propose Videolab?
T'as vraiment de tout. T'as du donc soit des formats de fichiers spécifiques, ça c'est un truc assez classique industriel. Soit des gens justement qui veulent qu'on travaille sur un des standards. Ils savent qu'un jour on le fera dans VLC, mais ils en ont besoin un peu plus vite. Notamment là sur AV1, sur AV2, on a une partie de choses qui ont été implémentées, qui ont été payées par ça. Beaucoup d'intégrateurs. Donc des gens qui ont besoin d'une application basée sur VLC pour lire de la vidéo sur une plateforme ou une autre, donc ils ont besoin d'aide parce que bah voilà, donc là c'est du pur consulting. Voilà, t'as un peu tout ça.
VLC 4 arrive, une nouvelle release majeure, donc on change de numéro de version. Quelles sont les nouveautés annoncées?
Je crois qu'on n'a pas annoncé grand chose parce que justement on a tendance à pas trop surannoncer. C'est un peu les gens qui annonce pour nous, quoi. En fait, en vrai, c'est exactement ça qui se passe.
Alors, moi, j'ai entendu parler d'une rumeur comme quoi VLC va être porté en WebAssembly pour proposer d'embarquer dans une page web.
C'est vrai, on bosse là-dessus. Est-ce que ça va arriver?
Est-ce que c'est vraiment utile? Ne vaut-il pas mieux, finalement, laisser la lecture native au navigateur avec toutes les spécificités, les API qui sont propres au web et aux Media Elements?
Oui et non. C'est vrai que bah, la partie Media Elements, elle fonctionne. Mais en même temps, ça veut dire que tu es obligé d'implémenter un format de fichier qui n'est supporté que sur les navigateurs. Tu n'as pas d'autre choix. Donc, ça veut dire que déjà, pour tous les formats qui sont soit legacy, soit pas exactement ceux du web, tu dois transformer ton flux. Donc, bah, ça peut coûter cher, c'est du temps. Les gens qui sont un peu des pros, des archivistes, ils trouvent que c'est pas super cool pour ça. Mais le deuxième problème, il est un peu plus embêtant. Ça veut dire que tu dépends de Chrome et de la version de Chrome. Et ça, c'est plus embêtant parce que quand tu vois le nombre de régressions qu'il y a d'une version à l'autre...
Ah, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans.
Les fonctionnalités de base de la lecture pour Netflix, ça marche. Bien sûr, ça s'est testé. Et par exemple, moi, je me souviens, il y avait France Télévisions, ils avaient une démo de son multicanal objet basé sur Web Audio. Et il y a une version mise à jour de Chrome et ils n'ont plus jamais réussi à le faire. Et donc c'est assez embêtant quand Chrome va pas supporter un codec ou une sous-version d'un codec, bah toi tu l'as dans le baba. Donc il y a quand même un intérêt qui est tu parles directement, tu sors directement en WebGL et tu sors directement à la fin du pipeline audio et c'est ça qui fonctionne. Et après, bah, si tu veux mettre du MP4 de cette façon-là, si tu veux mettre même du MPEG-2 ou même de la vidéo entrelacée, tu peux le faire.
Dernière question. Je sais que ta réponse peut attirer des jalousies, voire créer des controverses tenaces. Jean-Baptiste, quel est ton codec favori?
Aucun. Franchement, les codecs, ça m'intéresse moyen. Parce qu'il y en a plein, il y en a tout le temps. J'aime bien ce qui se fait sur AV1, mais c'est pas une question de codec, quoi. C'est une question, l'approche, elle est intéressante de trouver quelque chose qui, même aux États-Unis, soit royalty free. Donc, t'es pas à payer pour l'utiliser. Donc ça, c'est vrai que c'est le truc le plus sympa. Après, le reste, je dois avouer, pour moi, c'est pas d'amour ou pas d'amour pour un codec particulier.
Jean-Baptiste Kempf, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps de ta réponse. Mille merci, bonne réception. Un VLC, si je me trompe, à un module de lecture de podcast.
Oui.
Donc, on peut nous retrouver aussi, on peut aussi écouter CPU par ce biais-là, en plus du stream de la radio et de tout ça. Merci à toi, bonne journée.
Merci à toi.